Tous les mercredis de 16h à 17h, vous avez rendez-vous avec le monde sur iRadio. Diplomatie, votre émission dédiée à la géopolitique et aux relations internationales, passe au crible l'actualité internationale avec des experts de premier plan intervenant dans divers domaines et dont l'expertise n'est plus approuvée. Diplomatie, c'est la tribune des hommes et des femmes qui font bouger le monde de par leurs positions et actions de tous les jours. Économie, politique, culture, environnement, santé, sport, votre rendez-vous des nouvelles du monde décrypte tout. Diplomatie, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur iRadio avec Mam Abdougay Kassé.
Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité au programme d'iRadio. Cet après-midi du 15 mai 2024, votre émission Diplomatie reçoit le porte-parole du CSP-DPA, le cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad, une organisation qui concentre l'essentiel des groupes armés du Nord Mali, signataires des accords d'Alger 1 et 2 en 2015. Bonjour Mohamed El Maouloud Ramadan.
Merci, bonjour à vous et à tous vos auditeurs.
Première question, en début du mois, le CSP-PSD, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, est devenu cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad. Pourquoi cette nouvelle dénomination?
Le CSP, son premier nom, comme vous l'avez bien dit, c'était le CSP cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité. Donc, lorsque ça a été créé, ça fait presque maintenant 2 ans de cela, et cette structure a été créée entre deux grandes composantes des mouvements, c'est-à-dire deux grandes coordinations, la coordination des mouvements de l'Azawad, la CEMA qui avait pour revendication les statuts juridiques et politiques de l'Azawad, qui était un mouvement indépendantiste, et qui a des revendications politiques d'un côté. De l'autre côté, il y a une autre coordination qu'on appelait la plateforme d'Alger du 14 juillet. C'était un ensemble de mouvements qui étaient du côté du gouvernement, qui étaient pro-gouvernement. Donc, après la signature de l'accord, pour éviter plus de problèmes internes entre nos communautés et entre nos mouvements, les responsables de ces mouvements ont jugé nécessaire de conjuguer les efforts pour être ensemble, pour coordonner plus des actions sur le terrain pour la sécurité, et en même temps coordonner et être ensemble pour la mise en œuvre de l'accord. C'était l'objectif lors de sa création. Aujourd'hui, on n'est plus là. Il n'y a plus d'accord. Les autorités de la junte de Bamako ont dénoncé, ont quitté cet accord. Donc, ils nous ont déclaré la guerre. Nous sommes dans une guerre qu'ils nous ont imposée aujourd'hui. Oui. Donc, il faut obligatoirement revoir nos objectifs. On doit réactualiser nos objectifs et pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui, du moment où ce qui nous a réunis il y a 2 ans de cela n'est plus. Donc, c'est ça la cause pour laquelle l'ensemble des mouvements et les responsables étaient réunis pendant une semaine dans l'Azawad pour trouver, pour coordonner, pour trouver une entente, quelque chose de commun accord comme objectif qui nous avons communiqué la semaine dernière, c'est-à-dire l'objectif, c'est le statut politique et juridique pour le peuple de l'Azawad. Et le nom aussi a été changé parce qu'il faut défendre notre population qui subit aujourd'hui des exactions de la part de l'armée malienne et des mercenaires russes.
Alors, la semaine dernière, le dialogue intermalien qui a regroupé des partis politiques proches du pouvoir et quelques-uns de l'opposition, une partie de la société civile, a livré ses conclusions après quelques jours de concertation. Parmi les résolutions prises par les participants, la prorogation de la durée de la transition de 2 à 5 ans et la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine présidentielle, dont la date reste un grand mystère, jusqu'ici pas encore fixée. Alors, quelle est la position du CSP-DPA sur ces recommandations du dialogue intermalien?
Vous savez, d'abord, on parle d'un dialogue lorsque cela se passe entre deux parties. Et surtout des parties en problème, en belligérance. À ce moment qu'on parle d'un dialogue pour trouver une solution à leurs problèmes, on dialogue afin de trouver une entente. Ce n'est pas le cas de ce cinéma qui a été organisé à Bamako par la junte. Tous les participants qui sont du côté de la junte et sont leurs partisans. Donc, de quel dialogue parle-t-il? Ça, c'est de un. De deux, lorsque le président de la junte avait dit qu'il trouvera quelque chose d'alternative à l'accord d'Alger, il parlait d'un accord. Je crois que suite à leur rencontre, leur fora et leur kermesse, les résolutions sont toute autre chose. Ça n'a rien à voir avec leur TDR et ce que leur président a fait comme discours au Nouvel An. Donc, il parlait d'une alternative à l'accord d'Alger, mais malheureusement, les recommandations ici de ces rencontres sont autre chose. Il parle de prolongation de la junte, la période de la transition de la junte pour 5 à 10 ans. Ça n'a rien à voir avec la paix ni la réconciliation. Les gradés, les colonels putschistes, leur promotion en grade de général, ça aussi n'a rien à voir avec la réconciliation ni la paix. Donc, pour nous, ça c'est juste une mise en scène et son objectif était juste de leur trouver un alibi ou bien un prétexte pour rester plus au pouvoir. Il faut aussi souligner que tous les participants sont juste les partisans de la junte,
Oui.
parce que ni les mouvements armés qui sont censés être l'acteur principal dans un dialogue avec les autorités maliennes n'ont pas été présents, ils n'ont l'intention de prendre part. De l'autre côté aussi, les partis politiques ont tous suspendu leur participation à ces dialogues. Donc, c'était juste une mise en scène, un cinéma, et pour trouver un prétexte, comme j'ai eu à le dire, à rester plus au pouvoir et faire souffrir les Maliens et prendre les pays en otage. Et malheureusement, c'est ce qui continue.
Alors, quelle est votre position sur le sort de la transition? Êtes-vous d'accord pour sa prorogation de 2 à 5 ans?
Nous, la junte à Bamako, qu'ils restent ou qu'ils partent aujourd'hui, ce n'est pas notre objectif et nous n'avons aucun commentaire par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre avec ce pouvoir qui est à Bamako. C'est une guerre qu'ils ont choisie. Ils sont partis amener des mercenaires russes, des mercenaires turcs pour exterminer, faire des nettoyages ethniques systématiques contre nos communautés. Ils sont en train de commettre une politique de la terre brûlée contre nos populations, le pays. Ils volent, ils saccagent nos villages et obligent nos populations à l'exil dans les pays voisins. Je ne vois pas l'importance qu'on commande qu'ils restent ou qu'ils partent. Nous, entre nous et eux, il y a qu'aujourd'hui la guerre. Parce que c'est eux qui l'ont choisi. Nous n'avons jamais été un va-t'en en guerre, mais c'est l'option pour laquelle ils ont opté et nous sommes prêts à les répondre sur ce terrain.
Pourtant, dans les conclusions, M. Ramadan, il est bien mentionné l'ouverture de concertations, de discussions avec les groupes armés, dont le CSP, DPIA. Acceptez-vous cette main tendue par la junte?
Ah, pas du tout, pas du tout. Nous ne sommes plus là, nous ne sommes pas dans une phase ou bien dans une logique de négocier avec cette junte. Et ce dialogue avec nous, pourquoi? Si c'est pour l'accord, si c'est pour la paix, c'est pour la réconciliation, nous déclarer la guerre, n'allez pas quitter l'accord d'Alger. Donc, c'est pour quel objectif? Pour quel objectif ils demandent un dialogue avec nous? Je ne vois pas l'utilité ni la nécessité d'aller avec cette junte, ces criminels qui sont au pouvoir sur quoi que ce soit. Leur seul objectif, c'est de rester et de prendre, comme j'ai eu à le dire, toute la population. Là, j'ai continué à commettre plus des exactions et des crimes contre nos populations. Donc, nous ne sommes pas prêts, nous ne voyons pas l'utilité ni la nécessité de dialoguer avec eux parce que déjà opté pour la guerre, donc qui a assumé les responsabilités.
Mais ne pensez-vous pas que vous devez mettre de côté vos intérêts crypto personnels et penser à l'intérêt général? Aujourd'hui, les Maliens qui vivent depuis plus d'une décennie le fléau qu'est le terrorisme veulent vivre en paix. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les Maliens ont le droit quand même d'accéder à cette paix-là?
Oui, ces questions doivent être posées à ceux qui ont amené tout cela. Aujourd'hui, nous avons été dans un accord signé avec les autorités démocratiques légitimes maliennes, donc qui est observée par la communauté internationale. Il y a une médiation nationale. Donc, depuis 2015, nous sommes dans cet accord que nous avons respecté. C'était des engagements que nous avons pris et que nous avons continué à respecter. S'il y a quelqu'un qui doit être aujourd'hui interrogé par rapport à l'incité à ce qui se passe dans le Mali, c'est bien les putschistes de Bamako qui sont partis à amener les mercenaires Wagner russes. Et celui qui parle de Wagner parle des terroristes, parle des exactions, parle des mercenariats, parle des organisations qui ne répondent à aucun droit, personne n'est responsable de leurs actes. Donc, s'il y a un responsable de ce chaos que le Mali vit aujourd'hui, c'est bien Assimi et ses collègues militaire. C'est pas nous. On était dans un accord, nous avons bien respecté nos engagements jusqu'à ce qu'on nous a déclaré cette guerre, on nous l'a imposée. On n'a pas le choix que de répondre comme il le faut.
Mais parlons justement de ces accords d'Alger 1 et 2. Ne sont-ils pas en réalité le véritable problème en ce sens qu'ils fixaient des interdits aux FAMA, aux forces armées maliennes? Par exemple, elles n'ont pu entrer sur Kidal qu'en 2018.
Non, pas du tout. L'accord d'Alger n'a jamais été une source de problème. Il y avait juste les mécanismes qu'il fallait mettre en œuvre pour avoir accès à partout. Et je vous rappelle que lorsque les autorités maliennes ont déclenché la guerre sur nos positions, il y avait un bataillon de l'armée malienne à Kidal. Et ce qui tardait le reste, c'était la mise en œuvre de l'accord, parce qu'ils n'avaient pas la volonté de le mettre en œuvre. L'accord d'Alger n'a aucun problème. C'était une chance, c'était un instrument qui pouvait vraiment sauver ce dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui pouvait sauver l'unité qui est chère aux Maliens, mais pas nous. Nous sommes aujourd'hui, ces principes de l'unité, de souveraineté qu'on avait signés dans cet accord aujourd'hui sont mis en cause. Donc ça nous engage plus, nous ne reconnaîtrons plus. C'était le seul lien qui nous liait à l'État et aux autorités maliennes. Donc aujourd'hui, cet accord n'est plus. Donc tous ces principes aujourd'hui sont mis en cause de notre part. Donc l'accord n'avait pas de problème. C'était un bon accord. Il fallait juste aller à sa mise en œuvre, ce qui n'a pas été ce qui n'était pas dans l'agenda de la junte de Bamako.
Aujourd'hui, vous avez opté pour une posture radicale, une posture va-t-en-guerre. Pensez-vous qu'elle pourra produire les effets escomptés?
Vous savez, ce n'est pas nous qui avons opté pour cette guerre. Comme j'ai dit, nous sommes en train de faire la défense. Nous sommes en défense légitime. Donc, c'est les autorités maliennes et leurs supplétifs russes et turcs qui sont en train de nous mener une guerre. Donc, si nous répondons à cette guerre, ce n'est pas nous qui sommes responsables de son déclenchement, c'est bien les autorités, je le répète maintes fois. Donc, cette posture, ce n'est pas nous qui sommes responsables de ces conséquences. Donc, nous allons nous défendre, nous allons défendre nos populations, nous allons défendre nos communautés et nous allons plaider pour notre cause.
Les autorités maliennes vous accusent d'enrôler par force les jeunes, mais également vous demandez aussi des rançons aux populations. Est-ce que cela, c'est quelque chose d'avéré?
Non, nous avons des hommes suffisants pour combattre dans nos rangs. On n'a pas besoin de jeunes. Et lorsque l'aménagement et les organisations des droits de l'homme étaient là, ils ont bien pu constater cela, que dans nos rangs, il n'y avait pas des enfants. Donc, quant aux rançons, je ne vois pas nous faisons de rançon contre nos populations. Peut-être ils parlent de Wagner. Si je me trompe, c'est Wagner qui sont en train de piller les gens. Là où ils partent, ils prennent. Et ils volent leur argent, leur or, et tout ce qu'ils possèdent comme bien. C'est bien connu, c'est bien filmé, c'est bien. Tout le monde en sait quelque chose.
Plus de 80 partis politiques et organisations réclament la tenue de l'élection présidentielle avant la fin de l'année. La transition a officiellement pris fin le 26 mars dernier, mais les militaires arrivés au pouvoir en août 2020 ne disent rien de leurs intentions. Selon vous, monsieur Ramadan, qu'est-ce qui explique ce silence?
C'est connu, comme on a dit au début de mon intervention, que ce silence est expliqué par leur volonté de rester au pouvoir. Donc, le fait même qu'ils nous ont déclenché les guerres, c'est l'un de ces élèves. C'est juste pour rester à Bamako et prendre la guerre comme prétexte. Comme les dialogues dont il s'agit aussi, ce n'est que pour créer des conditions et faire dire à la population qui a participé qu'il leur demande de rester. Donc, c'est ça. Il n'y a aucune autre explication que de rester au pouvoir. C'est ça leur objectif. Donc, c'est aux politiciens maliens d'assumer, de prendre les responsabilités et de ne pas laisser ces militaires prendre leur pays en otage. Donc, ils doivent, ne doivent pas aussi, quelqu'un ainsi aujourd'hui sont bien des politiciens maliens, ils doivent assumer leurs responsabilités et pleinement leur rôle comme responsable de ces pays afin de bouter ou bien de faire dégager ces militaires qui ont pris les pays par force et par les armes.
Le dialogue intermalien qui s'est achevé il y a quelques jours est la troisième rencontre du genre depuis la destitution du défunt président Ibrahim Boubacar Keïta. Un mois après avoir pris le pouvoir par la force, le colonel Bandao et son premier ministre Mouktar Wone avaient initié les concertations nationales. Ensuite, en décembre 2021, les assises nationales dites de la refondation. Et enfin, en mai de cette année, le dialogue intermalien. Pourquoi Mohamed El Mouloud Ramadan, malgré la tenue de ces rencontres, vous acteurs maliens, vous ne parvenez toujours pas à vous entendre autour de l'essentiel?
Vous savez, tout cela dépend des responsables, les autorités qui gèrent le pays. Tous ces forats dont vous parlez, ce n'est que pour la forme. Les recommandations, leurs conclusions ont été déjà faites d'avance. Donc, mais pour les faire passer, pour les refaire vendre, il faut réunir certains Maliens qui applaudissent au maître du jour pour les valider. Sinon, ce n'est que pour la forme, comme j'allais dire. Donc, si il y a la volonté de s'entendre et de faire avancer les pays, les voies et moyens n'y a pas. Il n'y a pas obligatoirement de pas passer par des assises ou bien des conférences de ce genre. Donc, et puis, les Maliens ne sont pas qu'à Bamako, sont un peu sont dans toutes les régions. Ce n'est pas, on réunit 10 000 personnes ou bien 3 000 personnes dans une salle, et on parle que c'est les Maliens ont décidé, les Maliens ont fait telle chose, alors que c'est juste un petit nombre qui applaudit les maîtres du jour et qui ne peut en aucun cas engager tous les Maliens. Donc, c'est une dictature, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Donc, tout ce qu'ils font, c'est juste pour renforcer leur pouvoir et pour trouver un prétexte à ceux qui crient. Ce qui s'oppose à leur éternisation à Koulba.
Pourtant, en septembre 2020, les concertations nationales étaient bien parties pour quand même produire des résultats probants. Qu'est-ce qui a bloqué finalement ces discussions?
Bon, nous, vous savez, on n'avait pas pris part à ces concertations. Vraiment, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui n'a pas marché, mais comme j'ai à l'expliquer maintenant, que tout ça dépend des autorités qui sont en place. Ça n'a rien à voir avec les résultats ou bien les recommandations d'un forat donné. Ça relève de la volonté politique de ceux qui détiennent le pouvoir d'avancer ou bien de traîner. Donc, le problème se situe à la tête. Si on règle la tête, tout va se régler. Et tant que la tête est mauvaise, donc les choses vont continuer à s'empirer et la situation deviendra du jour au jour plus chaotique. C'est l'insécurité, c'est la misère, c'est l'État qui est aujourd'hui en faillite totale dans tous les domaines, soit économique, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien, quoi. Donc, c'est les premiers responsables, c'est ceux qui gèrent ces pays aujourd'hui.
Diriez-vous également la même chose pour les assises nationales de la refondation en 2021?
Tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. Il y a plusieurs autres, il y a tellement de mécanismes qui nous permettent d'avancer si, comme je l'ai dit, la volonté politique des autorités en place et qu'ils s'entendent avec la société civile et toute la nation, les acteurs politiques et les forces vives de la nation. C'est facile d'avancer s'il y a entente et s'il y a volonté politique de faire participer les uns et les autres, qu'ils soient inclusifs. Mais comme aujourd'hui à Bamako, c'est les militaires qui détiennent le pouvoir par force, ils demandent la volonté des personnes, ils sont en train de faire leur politique comme leur paraît bon. Donc, ils sont en train de payer dans le chaos. Donc, ils sont les responsables, les forats et les as dont vous parlez, ça ne résout aucun problème. Ce ne sont qu'un parmi tant d'autres qui ont été faits sans solution, sans proposition concrète. Et même s'il y a des propositions concrètes, c'est pour être jeté dans la poubelle.
Le cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad, dont vous êtes le porte-parole, a clairement indiqué que les recommandations sorties du dialogue intermalien sont une mascarade et que par conséquent, ils ne comptent nullement les appliquer. En retour, qu'est-ce que vous auriez proposé pour une sortie de crise, si on peut l'appeler ainsi?
Vous savez, j'allais dire au début de mon intervention, nous sommes dans une crise qui nous a été imposée. Avant cela, nous étions dans un accord signé avec une autorité démocratiquement élue. Aujourd'hui, c'est les pouvoirs militaires à Bamako qui ont amené cette guerre, qui nous ont imposé cette guerre. Nous sommes dans une crise amenée par l'État de Bamako. Ce n'est pas à nous de proposer une solution de sortie de crise. Nous sommes dans une guerre et nous allons répondre sur les terrains qu'ils ont choisis. Donc, il n'est pas question de négociation ou répondre à des recommandations, comme vous l'avez dit, des mascarades qui ont été mises en scène entre Khmer à Bamako qui ne répondent rien à la réalité du terrain ni de ce qui se passe dans ce pays.
En avril dernier, la transition a suspendu les activités des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national, affirmant que ces derniers sapaient l'unité nationale, une mesure contestée par l'opposition et une certaine société civile. Et vous, comment l'aviez-vous accueilli?
Et nous l'avons accueilli comme tout un autre observateur, comme tout un homme libre. C'est de la dictature. Il suffit de parler sur une antenne ou bien de poster un test sur les réseaux sociaux pour contre cette gêne pour se retrouver dans la prison. Donc, toutes ces mesures prises par les militaires vous montrent que c'est de la dictature. Donc, c'est la dictature et c'est le pouvoir militaire proprement dit. Donc, nous l'avons appris comme comme le reste du monde. Donc, c'est la restriction de la liberté, la restriction des mouvements politiques, la restriction des activités politiques. Donc, aujourd'hui, les pays pris par un cinq colonels, et ils font de ces pays ce qu'ils veulent. Donc, c'est aux Maliens d'assumer leurs responsabilités et de les faire dégager.
Je rappelle que vous suivez Diplomatie sur Iradio, Mohamed El Maouloud Ramadan est notre invité. Il est le porte-parole du cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad, le CSPDPIA. Parlons maintenant de la situation au Nord Mali. Les combats ont repris entre les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Donc vous et les forces gouvernementales, les affrontements sont-ils toujours en cours ou bien c'est l'accalmie actuellement?
Bon, vous savez, dans l'Azawad que vous appelez, ou bien que les Maliens appellent Nord du Mali, il y a certes la guerre, il y a plusieurs acteurs sur le terrain. Il y a les Wagner russes qui sont en train de commettre des exactions contre les civils et les populations et qui ne cherchent même pas là où il y a les hommes armés ou bien les mouvements armés. Leurs objectifs, c'est de s'attaquer aux populations, de faire. Obligé de faire obliger le maximum de populations à quitter les territoires. Donc, ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a l'armée malienne qui ne décide de rien, qui ne décide de rien sur le terrain. Sont ces risques qui décident de tout. Il y a aussi les RDGNIM qui sont là et qui mènent leur combat, qui n'est pas nouveau, qui depuis bien. Lorsque nous étions dans l'accord, ils étaient dans la guerre, ils n'ont pas signé l'accord. Et il y a nous. Nous sommes presque présents sur toute l'étendue des territoires de nos régions, de l'Azawad. C'est vrai que nous ne sommes pas dans les villes, mais nous sommes présents sur les territoires et nous avons mené la guerre contre cette armée mercenaire de Wagner dans plusieurs localités. Et toutes les actions que nous avons menées, nous les avons revendiquées. Aujourd'hui, nous sommes là, nous nous préparons à une guerre implacable contre ces mercenaires russes et cette armée génocidaire qui ne fait la différence ni entre civils, ni entre femmes, ni entre enfants. Donc, nous sommes dans la guerre et nous allons le mener jusqu'au bout, comme j'ai à le dire maintes fois sur votre radio.
Alors, le problème, il est beaucoup plus complexe comme présenté. Aujourd'hui, dans l'Azawad, il y a plusieurs factions, il y a plusieurs groupes qui ne parlent pas le même langage. Est-ce que cela également, aujourd'hui, ne complexifie pas une paix dans la région?
Mais bien sûr, la paix aujourd'hui, on ne peut pas parler de la paix dans la région du Sahel. Tous les Burkina et les Niger sont infectés, donc toute la sous-région est menacée. Et s'il y a une menace, il y a instabilité dans cette région, c'est parce qu'il y avait un problème. Et ces problèmes avaient des causes. Malheureusement, durant toutes ces années, c'est nos problèmes, si on revient un peu en arrière, même ont des dimensions politiques et ne sont pas nouveaux. C'est presque l'un des conflits les plus anciens africains. C'est depuis l'indépendance du Mali. À chaque 5 ans, 10 ans, les gens reviennent et prennent les armes pour des revendications. C'est qu'il n'y a pas une solution adéquate à nos problèmes. Pourquoi? Parce que toujours, on cherche à résoudre les conséquences, que ce soit l'insécurité, le sous-développement. Ceci ne sont que les conséquences. Au lieu de s'attaquer aux conséquences, on devrait essayer à trouver des solutions, diagnostiquer quelles sont les causes, s'attaquer aux causes. Malheureusement, on ne l'a jamais cherché. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a toujours ces problèmes. Et tant que le problème n'a pas trouvé de solution, il y aura toujours une instabilité dans la. Il y aura toujours des coups d'État successifs. Il y aura toujours des narcotrafics, du terrorisme, de l'instabilité généralisée dans la région. Mais il suffit de trouver une solution, que les autorités maliennes assument leurs responsabilités, essayent de trouver une solution définitive et durable à ces conflits pour qu'on en finisse avec ces problèmes cycliques qui reviennent chaque 5 à 10 ans et dont les voisins en souffrent aujourd'hui. Tous les pays du Sahel sont impactés, pas que dans l'Azawad. Il y a plusieurs acteurs dans tous les pays du Sahel. Vous avez les JNIM, vous avez les Daesh, vous avez d'autres acteurs qui évoluent et qui font leur. Le Sahel aujourd'hui est déstabilisé, il y a des conflits partout, et moi, je peux dire que l'une des causes de ce conflit, c'est notre problème qui, malheureusement, n'a jamais été pris au sérieux pour trouver des solutions à ces causes, qui sont des dimensions politiques, j'ai bien dit.
Depuis plus d'une décennie, les populations fuient leur milieu naturel. D'autres qui ont pris l'option de rester l'ont payé au plus fort. Alors, quelle est la situation sur place au Nord Mali sur le plan humanitaire?
Le plan humanitaire est chaotique. Vous savez, il y a plus des organisations humanitaires qui interviennent sur le terrain depuis que la junte a pris. Elles ont presque chassé toutes les organisations humanitaires qui étaient là, de l'Union européenne, de la France et des autres pays, qui accusaient de gérance dans les affaires internes des pays, ce qui est du faux, du mensonge. C'était juste une manière de priver cette population de cette dont elle bénéficiait plus des dons que l'État leur fait. Sur le terrain aujourd'hui, vous avez les mercenaires Wagner russes qui font leur politique et qui mènent leur exactions comme ils veulent contre les populations. Ceux qui n'ont pas pu fuir, ceux qui n'ont pas les moyens de fuir pour aller en Mauritanie ou bien en Algérie ou bien aller plus loin dans le désert, ils sont aujourd'hui les victimes principales de cette organisation terroriste. Vraiment, la situation humanitaire est chaotique. Donc, il y a plus de déplacés dans les zones lointaines pour éviter d'être à proximité de Wagner. Il y a ceux qui sont partis soit en Mauritanie ou en Algérie aussi. Il y a les manques de dons. Donc, de votre tribune, je profite pour lancer un appel à l'HCR et d'autres organisations humanitaires à vraiment venir en aide à ces milliers de familles qui ont fui en laissant tout derrière eux, donc qui sont en train de souffrir. Ceux qui n'ont pas eu la chance de quitter sont restés dans les déserts, donc sont en train de souffrir, donc sont laissés à leur propre sort. Donc, la situation humanitaire en général est chaotique, très grave. Malheureusement aussi, nous constatons un silence de la communauté internationale sur ces exactions, sur les populations qui sont en train de souffrir. Donc, nous ne savons pas qu'est-ce qui explique cela, mais c'est le constat, malheureusement.
À peu près, à combien s'élève le nombre de déplacés internes et externes?
En externe, c'est des centaines de familles, en interne, c'est la même chose. Donc, vous trouvez toutes les villes, beaucoup de villages qui ont quitté leur localité pour aller plus loin dans des localités où qu'ils jugent loin d'être éteints par l'armée malienne et les Wagner. Donc, c'est des centaines de familles, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur.
Qu'en est-il maintenant de la situation des services sociaux de base dans cette région? Y a-t-il un accès à l'école pour les enfants, mais également un accès aux structures sanitaires de qualité?
Vous savez bien, avant même que cette crise ne commence, les services sociaux de base sont très rares, donc ils ne pouvaient pas prendre tout en charge. Aujourd'hui, on n'en parle pas, que nous sommes dans une guerre, donc les familles qui se sont déplacées, qui ont laissé leur localité, sont dans des zones où on n'en parle même pas de ces services de sociaux de base où l'eau est un luxe. Donc, il n'y a rien, on peut dire qu'il n'y a rien vraiment, donc. C'est le chaos général. Sauf peut-être dans certains centres urbains où nos communautés ne peuvent pas accéder, qui n'ont pas accès par peur d'être exécutées ou bien arrêtées.
Le cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad combat désormais non seulement pour la protection des populations, mais aussi pour obtenir un statut propre pour les régions du Nord, désignées sous le terme d'Azawad. Vous réclamez désormais un statut politique et juridique, mais n'est-ce pas là une cause perdue d'avance, car pour Bamako, l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Mali sont non négociables.
Mais ça, c'est le mot de Bamako. Nous aussi, nous avons notre mot à dire. Ils ne sont pas les seuls maîtres. Donc, en 2012, nous avons pris le contrôle de toutes nos régions. Nous avons fait des concessions pour sauver cette unité, pour sauver ces principes dont vous parlez. Et malheureusement, c'est ces mêmes autorités de Bamako qui ont mis tout cela en cause. Nous sommes dans une phase de guerre. Nous allons revenir récupérer les territoires et les terrains. Nous allons imposer notre. Nos revendications politiques. Donc, Bamako, c'est un partenaire. Nous sommes un partenaire. On trouve un terrain d'entente où personne ne peut imposer quelque chose à l'autre. Ces principes dont vous parlez étaient bien révis lors des négociations à Alger. Nous les avons acceptés. Nous avons signé un accord, mais c'est eux les responsables qui ont mis tout cela en cause en les dénonçant et en les quittant. Aujourd'hui, s'il y a prise d'armes et que nous contrôlons plus de villes et de territoires, nous avons nos revendications, c'est bien avoir un statut politique et juridique. Donc, ce n'est pas pour notre objectif, ce n'est pas aller à la guerre, ce n'est pas une fin en soi. Donc, notre objectif, c'est bien nous faire entendre, défendre nos populations et faire respecter nos communautés, nos revendications. Donc, nous parlons d'un statut politique et juridique et nous voyons que c'est la seule chose qui peut vraiment être une source de stabilité ou bien un gage d'une paix durable dans cette sous-région. Tant que ce statut juridique et politique qui nous permet de gérer nos régions d'une manière particulière n'a pas trouvé, nous allons toujours revenir à la case de départ et ce sera toujours un foyer de conflit pour toute la sous-région.
Votre organisation et l'armée malienne se battent pour le contrôle des bases militaires laissées par les Français de l'opération Barkhane, mais également par les forces onusiennes de la MINUSMA. Aujourd'hui, quelle est l'entité qui contrôle ces bases en question?
Vous savez, la guerre n'a pas déclenché pour le contrôle des bases laissées par l'aménagement. Mais il y a des principes qui étaient dans l'accord qui ont été violés par les autorités maliennes. Donc, ce n'est pas pour le contrôle des bases laissées par l'aménagement dans certaines localités. Nous avons dit que ces bases qui se trouvent dans les localités où il n'y avait pas l'armée malienne pour leur engagement sécuritaire et laisser ces effets de 2014. Là où les mouvements signataires sont, les autorités maliennes ne doivent pas y être sans qu'on trouve un mécanisme pour leur permettre de rentrer. Mais ce que les autorités maliennes n'ont pas voulu, ils ont amené leurs mercenaires des Wagner en déclenchant une guerre sans chercher à trouver une solution pour récupérer, pour trouver une alternative à ces bases laissées par l'aménagement, mais ne sont pas ne sont pas les facteurs déclencheurs des hostilités. C'est les autorités maliennes, depuis qu'elles sont venues et préparé cette guerre. Donc, elles sont dans les villes, nous sommes dans les environs. Et donc, notre objectif, ce n'est plus de rester une base quelconque. On n'a aucun intérêt de rester dans des bases fixes laissées par l'aménagement.
En septembre 2023, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont mis en place l'Alliance des États du Sahel, trois pays contrôlés par des régimes militaires. C'est pour promouvoir davantage leur coopération, mais également venir à bout contre la menace extrémiste et terroriste. Quels commentaires faites-vous sur l'AES?
Vous savez, l'AES, c'est juste une manière d'être ensemble pour faire face à la CEDEAO, pour faire face à leur population, pour plus rester au pouvoir. C'est l'objectif. Quant au mouvement armé, c'est le CSP qui est dans le Zawad. Donc, et comme il le veut, Burkina aujourd'hui est presque occupé par les régimes. Le Niger, on n'en parle pas. Leur objectif n'est rien autre que de faire face à la CEDEAO et de rester plus au pouvoir et de prendre leur population en otage. Donc, nous, c'est une alliance d'abord des militaires au pouvoir et qui n'a aucun avantage pour les populations, qui les enferme et les isole plus dans leur trois pays qui ont presque aujourd'hui des problèmes avec tous leurs voisins et avec le reste du monde. Donc, on peut dire que c'est une alliance des hommes pris les pouvoirs par les armes et qui veulent s'imposer plus.
Maintenant, terminons par la gestion des ressources naturelles. Une enquête récente de Forbidden Stories a accusé les mercenaires, les supplétifs russes du groupe Wagner de faire main basse sur l'or centrafricain et malien en contrepartie de leur offre de sécurité au régime en place. Est-ce que selon vous, ces accusations se vérifient sur le terrain?
Bien sûr, sont vérifiables sur le terrain. Vous savez, tous, tout le monde sait que les Wagner, là où ils partent, c'est pour piller les ressources minières des États où ils sont. Et là où ils partent, ils créent plus de chaos pour rester plus longtemps. Donc, ils ne viennent pas pour trouver une solution. Celui qui les a amenés pour lui sécuriser son territoire, il se trompe. Ils sont là où ils viennent, ils créent ils font plus des exactions contre les populations, ils brillent. Que tout cela, c'est pour généraliser l'insécurité là où ils sont, pour pouvoir rester. Parce qu'ils sont payés pour ça. Les joueurs de sécurité n'auront plus ces rôles à jouer. Donc, leur premier objectif, c'est de mettre la main des ressources minières, particulièrement les mines. Aujourd'hui, ce sont les maîtres des terrains et c'est eux qui sont responsables de la gestion de toutes ces mines d'or que ce soit dans la Zawad ou bien dans les centres des pays. Ça, c'est un des deux. Ils voient que les populations possèdent les pillages de leurs biens, soit dans des boutiques, soit dans des magasins, soit dans même les colliers ou bien les bijoux des femmes. Donc, elles sont là pour s'enrichir et c'est des mercenaires. On connaît le rôle des mercenaires dès qu'on en parle de ça. Donc, ce qui est dit est bien vérifiable au Mali comme dans d'autres pays.
Et vous, les groupes armés du Nord Mali, vous vivez de quoi exactement? Avec quoi financez-vous vos activités?
Vous savez, nous sommes des mouvements ici, des communautés. Nous avons nos communautés, une base populaire. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à ces communautés, c'est nos populations, donc les contributions communautaires, des cotisations. Donc, c'est ce qui nous permet de vivre. Nous n'avons aucune aide étrangère, nous ne disposons d'aucune aide étrangère. Donc, nous élions grâce à nos moyens, notre population et nos militants et des bonnes volontés de nos populations qui contribuent, qui mettent la main dans la poche pour pouvoir mener les activités. Ça a été toujours le cas.
Un grand merci à vous, Mohamed El Mouloud Ramadan. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des mouvements de la Zawad réunis autour du CSP-DPA, le cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de la Zawad, qui réclame désormais un statut politique et juridique. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous remercie. Merci à vous.
Merci à vous également, chers fidèles auditeurs, de nous avoir suivis sur e-radio. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Diplomatie. Au revoir.